France Culture.
Bonjour, messieurs, dames.
Ah, c'est Maria.
Bonjour.
C'est votre voix que je
Oui, en tout cas, oui, je suis contente que vous soyez venue. Pour moi, c'est un jour particulier. Voilà, allez-y. Ah, je vous ai pas fait peur là. Bon, parce que j'ai quand même la tête de l'homme qui rit. Je suis surnommée la femme qui rit.
Là, je vois des nounours sur un fauteuil.
Oui, ça, c'est le côté grand-mère.
C'est drôle parce que votre maman parlait beaucoup de sa nounou. Et là, quand je vois ces poupées, quand je vois ces nounours, j'ai l'impression de me retrouver dans l'univers de votre maman, non ?
Oui, des poupées, des jouets. Elle m'a parlé d'une jolie lampe qu'elle avait sur sa table de chevet.
Maria Langfous.
Avec quoi jouait ma mère ? Elle lisait. Alors, elle volait les livres dans la chambre de son frère qui avait 11 ans de plus qu'elle. Et sa mère lui disait, mais arrête, arrête. Et la nuit, donc, elle se cachait sous les draps. Alors, il paraît qu'elle lisait du Shakespeare à 11 ans, ma mère. Je dis souvent, je me souviens de choses que je n'ai pas vécues. Et ma mère était assez bibelot. Donc, elle m'a acheté pas mal de bibelots, des petites bricoles, comme ça. Je crois que c'est parce que j'ai pas eu de grands-parents. Pas de grenier, pas de maison comme tout le monde, là, à la campagne, avec les souvenirs. Pas de souvenirs physiques, matériels.
Il y a des objets de Sarcelles ici ou pas ?
Oui, enfin, ces objets, je les avais déjà à Sarcelles, oui. Ça, c'était maman. Elle était belle. Ouais. Enfin, c'est pas qu'elle était vraiment d'une beauté, mais elle avait quelque chose. Et là, ça, c'est ma grand-mère, que je n'ai jamais connue. Et cette photo est depuis ma naissance au-dessus de mon lit.
Et elle s'appelle Maria, comme vous,
oui,
votre grand-mère.
Oui, c'est pour ça que je m'appelle Maria.
Ouais.
Et c'est pour ça que ma fille s'appelle Anna.
Pour rendre hommage aussi à la famille.
Oui, oui, pour transmettre. Ah oui, oui. C'était une fille, donc sans hésitation, Anna.
Elle est très belle, Maria. Elle a un petit chapeau.
Elle a un petit chapeau. Là, elle était déjà... Elle avait la tuberculose.
Et c'est votre mère, Anna, qui vous a gardé ces photos-là ?
Oui, c'est les seules photos qu'elle a pu sauver, je ne sais pas comment. Je ne sais même pas comment elle a récupéré ça, puisqu'il n'y avait plus rien.
Sur le petit meuble, je vois une photo aussi assez intéressante, parce qu'il me semble que ça, c'est une photo de la pièce des lépreux, c'est ça. Et votre mère est juste à
et
côté,
ça, c'est maman.
En bas.
Oui. Voilà. Elle était assez photogénique. Oui. Avec les gens qui savaient prendre des photos. Autrement, elle était moche sur les photos.
Mais là, on a l'impression qu'elle pose pour devenir actrice, pour un casting.
Oui.
Elle est très, très belle, brune, les
oui,
yeux...
Oui, elle enfin, était
aussi,
brune. Elle est, oui, elle n'a pas eu le temps d'avoir des cheveux blancs.
Toute une vie. Anna Langfous, 1920-1966, vivre et écrire après la Shoah. Un documentaire de Dominique Prusak, réalisé par Laure-Hélène Planchet.
C'était à Jérusalem en 1963.
Claude Vigée, poète.
Nous avons reçu Anna Langfous chez nous, ma femme et moi. J'ai vu arriver une femme encore jeune, vers la quarantaine peut-être, je ne sais pas exactement l'âge qu'elle avait. Très émaciée, mince, le visage, maigre n'est pas le mot, mais un visage d'une femme qui avait vécu et souffert, ça on le voyait tout de suite. De grands yeux sombres, creusés profondément dans le visage, et c'est très fin, et cette peau assez oui, pâle, hein. Des yeux presque comme on en voit dans les peintures du Fayoum en Égypte, n'est-ce pas ? Les peintures qu'on trouve dans l'Égypte tardive, celle des dernières dynasties, ces peintures de portraits de morts ou de mortes. C'était ça son visage. Et également ses traits creusés, mais des traits creusés, un visage un peu sévère, un peu monacal, mais qui souriait, et une voix égale, douce, même quand elle racontait les choses les plus terrifiantes.
En 1962, Anna Langfous est la quatrième femme à obtenir le Goncourt littéraire pour son roman « Les bagages de sable ». L'œuvre de cette juive polonaise, rescapée de la Shoah, venue s'installer en France après la guerre, distille, en toile de fond, un vécu tragique et obsédant. Francophone, Anna Langfous a volontairement abandonné le polonais, sa langue natale, pour oublier un passé destructeur. Son combat opiniâtre pour la vie et sa profonde empathie pour les autres se manifestent avant tout à Sarcelles, sa ville d'adoption. Là, l'écrivaine donne des cours de théâtre chez elle et invite des personnalités du monde intellectuel dans le club des lecteurs qu'elle anime à la Maison des Jeunes et de la Culture. Aujourd'hui, la médiathèque intercommunale de Sarcelles porte son nom.
Je me suis aperçue qu'au fur et à mesure que j'écris, cela devient plus difficile. Mon premier roman était pour moi le plus facile, Le sel et le soufre.
Anna Langfous.
Après, le second était plus difficile, Sotte Barbare était encore plus difficile. Et je commence à me poser des questions maintenant. Tandis qu'au commencement, j'écrivais d'instinct, je ne posais aucune question. Au fond, on n'invente rien. On n'invente rien. Tout a été dit. Une fois qu'on connaît très bien, par exemple, le théâtre grec, toutes les vérités sont là-dedans. Donc, ce qui préoccupe le plus, c'est toujours l'homme. L'homme et sa vérité. L'homme et sa recherche. L'homme et sa faiblesse. L'homme en face de lui-même. Et surtout, je crois, surtout, l'homme devant la mort. Ses luttes, ses hésitations. Bien sûr, tout ça, c'est pas nouveau, ça a été dit et ça a été redit. Mais je crois que ce qu'il faut chercher maintenant, peut-être, c'est une forme. Je ne crois pas qu'on puisse refaire aujourd'hui un Stendhal, un Dostoïevski, un Victor Hugo. Ce n'est plus possible.
Jean-Yves Potel, vous êtes historien et écrivain, spécialiste de l'Europe centrale et auteur d'une biographie d'Anna Langfous qui s'intitule « Les disparitions d'Anna Langfous ». Où et quand est née Anna Langfous ?
Elle est née en 1920 à Lublin, en Pologne, c'est dans l'est de la Pologne, et elle s'appelle Anna Regina Sternfinkel. Sternfinkel, c'est le nom de sa famille, et Langfous, c'est le nom de son mariage. Lublin, c'est une ville moyenne qui est très importante pour le milieu juif, parce que cette région autour de Lublin est une région où la population juive est très importante. Dans les villes, elle représente généralement 30 voire 40%, et à Lublin, il y avait à peu près 35%.
Comment s'est passée son enfance ?
Elle a grandi dans un milieu qu'on peut dire moyenne bourgeoisie, c'est-à-dire que ses parents avaient les moyens de lui payer des études. Son père était un courtier en céréales, donc c'était quelqu'un qui était assez fortuné, et ils étaient propriétaires de tout un pâté de maisons. Donc si vous voulez, c'est une famille juive qu'on dirait aujourd'hui assimilée ou intégrée. Ils étaient polonais, ils se considéraient comme polonais. Et d'ailleurs, dans la famille d'Anna, on parlait bien sûr le yiddish, mais on parlait généralement le polonais. Et elle, elle a fait ses études en polonais, et elle parlait polonais. Elle fait le choix du polonais comme une forme de représentativité de sa place dans la société polonaise. Elle vit dans un milieu où elle a une gouvernante qu'elle appelle sa nounou, qui est une paysanne polonaise illettrée, mais elle est là dans cette maison. On peut la voir à Lublin aujourd'hui, c'est une maison à 3 étages, avec une grande façade, c'est une très belle maison, dans laquelle il y a toute une série d'autres familles, mais toutes ces autres familles sont liées par des liens familiaux. Donc vous avez là tout un groupe qui représente sa famille. Donc c'est une famille bourgeoise, si vous voulez.
On peut considérer qu'elle a eu une enfance heureuse ?
Curieusement, elle n'en dit pas grand-chose de cette enfance-là. Parce que, par exemple, tout ce milieu de bourgeois était entouré d'un monde juif qui était très pauvre. Et donc, Anna, quand elle allait à l'école, qui n'était pas très loin, quand elle sortait dans la rue, elle côtoyait la pauvreté, qui était la pauvreté du monde juif de l'époque. Parce que les juifs étaient généralement assez pauvres. Mais elle, elle était dans un monde réglé, avec l'école, avec la nounou, avec les parents, avec des amis. Elle avait une représentation très positive de ses parents, et donc elle considère qu'elle a grandi dans un milieu qu'on peut considérer comme un milieu heureux pour elle.
Jean-Yves Potel, elle part en Belgique pour suivre des études à Anna Langfous.
Alors, quand on était dans un milieu bourgeois et juif, il y avait des écoles juives, il y avait des écoles laïques. D'ailleurs, elle, elle est allée dans une école laïque et pas dans une école juive. Et ensuite, si on voulait faire des études supérieures, c'était très difficile dans le cadre polonais. On pouvait le faire, mais on subissait immédiatement une ségrégation qu'on appelait le ghetto des bancs, l'antisémitisme. Et donc la famille d'Anna a choisi de l'envoyer dans une école d'ingénieurs. Parce que le projet de cette famille, c'était de donner à Anna et à son jeune mari avec qui elle venait de se marier les clés d'une usine textile qu'il voulait constituer. Et donc, il fallait pour ça qu'ils deviennent ingénieurs. Donc, on les a envoyés à Verviers, en Belgique, qui est une des grandes écoles d'ingénieurs à l'époque en Europe, où ils vont suivre des cours pendant un an. Et ce qui est intéressant sur les cours que va suivre Anna, c'est que ses cours étaient en français. Elle parlait déjà très bien le français. À l'école polonaise, elle avait des très bonnes notes en français. Elle savait parfaitement le français quand elle est arrivée en France.
Jean-Yves Potel, que se passe-t-il le 1er septembre 1939, quand l'Allemagne attaque la Pologne ?
Ils étaient à Verviers, en Belgique, où ils étaient à l'école d'ingénieurs. Et pendant l'été, ils sont venus en vacances chez eux. Et le 1er septembre, jour de l'attaque par l'armée allemande de la Pologne, et début de la Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre qui commence très violemment, puisque tout de suite, les Allemands vont bombarder et détruire des villages et des villes. Et ils voient la guerre qui commence. Mais ils restent chez eux, ils ne bougent pas, ils attendent voir ce qui va se passer. Ils vont ensuite se cacher. Mais il va falloir quelques semaines pour qu'ils soient sous occupation allemande. Pour elles, c'est le début de la guerre, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient prévu ne s'est pas passé, et maintenant ils devaient vivre avec la guerre. Et ils vont découvrir la guerre. La guerre, dit Anna Langfous dans un texte fameux, c'est le mal pur. Tout commence avec la guerre. C'est un changement de monde, c'est un changement de façon de vivre. Elle en prend conscience à ce moment-là, et bien sûr, elle va en prendre conscience beaucoup plus dans les années qui vont suivre.
La guerre en Pologne, l'occupation allemande en Pologne, quand on est juif, ce sont les ghettos, Jean-Yves Potel.
Oui, on a toujours l'impression, quand on parle des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, que ça s'est réduit à leur arrestation et leur déportation dans des camps où ils ont été tués. En partie, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. L'expérience pour les juifs de la Seconde Guerre mondiale, en Pologne, elle dure 3 ans. De 39 à 41-42, 42 c'est le début de la destruction massive qui commence d'ailleurs à Lublin. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, tout simplement, il y a eu des discriminations tout de suite, mais très vite, les Juifs ont dû se rassembler dans des ghettos. Contrairement à ce que pensent les gens en général, il n'y avait pas un ghetto à Varsovie, il y avait plusieurs centaines de ghettos sur le territoire polonais. Et il y en avait un à Lublin. Et donc au début, ce ghetto c'était un lieu dans la ville dans lequel devaient se concentrer les Juifs, et tous les non-Juifs qui habitaient dans ces quartiers devaient quitter ce quartier et aller ailleurs. Et donc, à Lublin, il y a eu un ghetto qui était très important. Il y avait probablement 30 ou 40 000 Juifs qui étaient dans ce ghetto. Et là, c'était fermé, les conditions de vie étaient très difficiles, et de santé. Et d'ailleurs, Anna a attrapé le typhus à ce moment-là.
De l'autre côté du mur du ghetto, la vie continue. Là-bas, des gens marchent, à pas lents, à pas pressés, comme ils ont l'habitude de marcher. À quelques mètres, sur le bord du trottoir, deux femmes sont en grande conversation. Elles ne paraissent pas me voir. En réalité, elles sont à une distance incalculable. Entre nous, il y a ce réseau de fils de fer hérissés de pointes. La tête me tourne. C'est ma première sortie et je ne suis pas encore bien solide sur mes jambes. Je me retiens au barbelé. Une piqûre au doigt me fait aussitôt lâcher prise. Je regarde la goutte de sang qui s'épanouit à l'extrémité de mon pouce. Donc je suis vivante. Derrière les barbelés, nous sommes encore vivants. Nous existons. Je rentre chez moi. Je me déshabille et je me couche, le visage tourné vers le mur. Je ne sortirai plus.
Le sel et le soufre.
Donc elle a été dans ce ghetto avec sa famille. Ensuite, elle a essayé de s'en sortir en allant dans le ghetto de Varsovie. Mais si vous voulez, toute la guerre, c'est une expérience de ça, du ghetto et des récriminations, de la violence des nazis pour les juifs qui sont en dehors du ghetto.
Jean-Yves Potel.
Il était interdit d'aller en dehors du ghetto. Et ce qui est aussi pénible à rappeler pour les Polonais souvent, c'est qu'une partie des Polonais, certains Polonais, pendant cette période, ont aussi dénoncé des juifs qui étaient en dehors du ghetto. Et elle raconte des histoires comme ça aussi.
Jean-Yves Potel, Anna Langfous s'enfuit du ghetto. Elle trouve un moyen de partir du ghetto de Varsovie.
Oui, bien sûr, elle quitte le ghetto et elle part avec Jakub. L'idée, c'est de se cacher et de se protéger dans la partie dite aryenne de la Pologne, parce qu'elle a compris ce qui va se passer. Quand ils liquident les ghettos, on sait que les Juifs qui sont emmenés, soi-disant, pour travailler je ne sais où, vont directement vers des centres de mise à mort. La formalisation de tous les ghettos, c'est 40-41. Et la liquidation, ça commence en 42.
Jean-Yves Potel, que fait Anna Langfous en dehors du ghetto de Varsovie ?
Alors, elle va rentrer en contact avec la résistance polonaise. Alors, il y avait plusieurs résistances polonaises, mais celle avec laquelle elle entre en contact, c'est la résistance dite nationale, l'AKA, donc l'armée du pays ou l'armée de l'intérieur, il y a différentes traductions. Et cette armée, elle est en lien avec le gouvernement de Londres. Et l'armée polonaise, qui existait en 1939, qui a résisté aux Allemands, pas beaucoup, en 3 semaines, ils ont été rétamés, mais les soldats polonais qui étaient là ont gardé leurs armes, sont restés chez eux, ont commencé à organiser une résistance. Et cette résistance, ce n'était pas un groupe politique, cette résistance était considérée comme l'armée nationale légitime. Et donc il est naturel, d'une certaine manière, que Anna aille vers cette armée-là, si elle voulait les aider. Donc elle a été, pendant quelques mois, courrier pour cette armée, c'est-à-dire qu'elle allait d'un endroit à l'autre, et elle apportait des informations. Ça l'a protégée. Elle était protégée, disons, par le dispositif de l'armée de l'intérieur. Elle ne disait pas partout qu'elle était juive. Elle était polonaise. Elle parlait parfaitement le polonais. Elle n'a pas été accusée par les gens de la CA d'être juive, etc.
Je dis à l'homme, qui avez-vous perdu ? Mes parents, ma femme, ma fille. Je lui dis, et vous, vous étiez ? Il me regarde droit dans les yeux et rit méchamment. Moi, j'étais dans les forêts, résistant. En quelle année ? 1943. J'y étais aussi, dis-je, avec les résistants de l'armée nationale. Avec ces salauds, je fais oui de la tête. Ils tiraient sur nous chaque fois qu'on se rencontrait. Je sais, dis-je. C'est drôle, dit-il. Vous auriez pu tirer sur moi. Peu probable, dis-je. Je ne tirais jamais. Pourquoi êtes-vous allé avec eux ? Par hasard. Et puis j'avais quelqu'un à sauver. Vous n'auriez pas fait la même chose, vous ? Il ne répond pas. Alors je lui souris. Bien sûr que vous l'auriez fait. Ça et pas mal d'autres choses. Guerre avouable. Possible, dit-il. Sûr, dis-je. Donc d'après vous, on était tous des salauds. Sans doute pas. Je crois me souvenir que j'étais plutôt bien avant. Alors ? J'ai changé. Pas vous ?
Les bagages de sable.
Que deviennent ses parents pendant ce temps-là ?
Alors, ils se séparent, c'est-à-dire que quand elle va dans le ghetto de Varsovie, elle y va avec sa mère. Son père est resté à Lublin. Son père va être tué lors de la liquidation du ghetto de Lublin. Et sa mère va être tuée au moment de l'insurrection du ghetto. D'après plusieurs témoins, elle aurait été brûlée vive.
Après l'insurrection du ghetto, après l'insurrection de Varsovie, Anna Langfuss est capturée, on peut dire ça comme ça, par les troupes allemandes.
Oui, en fait, pendant une période, elle se cache dans la forêt avec son mari qu'elle a retrouvé. Ils sont dans une période qui est très difficile parce qu'ils vont d'un endroit à l'autre. Ils ont beaucoup de mal à se cacher durablement. Et finalement, tous les deux ont été arrêtés et ils ont été mis en prison à Ponsk. Alors, ce qui est intéressant, parce que j'ai pu l'établir, c'est que pour les nazis, elle était polonaise et lui était juif. Bah, lui, c'était difficile de le cacher parce qu'il était circoncis. Tandis qu'elle, elle n'a rien dit. Et donc, j'ai trouvé les papiers de la Gestapo et on voit que c'était cette distinction. Par contre, elle a été torturée parce qu'il voulait qu'elle avoue qu'elle avait aidé ce juif. Yacoub, elle l'appelle Jacques dans son roman « Le cède et le souffre ». Donc, il s'est passé là deux choses extrêmement tragiques. Les nazis ont fusillé Jacques devant ses yeux, quasiment. On pouvait voir la cour de sa cellule. J'ai trouvé également des papiers et des témoignages de beaucoup de prisonniers de cette prison et qui racontent que effectivement la violence vis-à-vis notamment des femmes était extrêmement importante. Torture, viol, tout ce que vous pouvez imaginer, ça a été très très violent vis-à-vis des femmes. On ne sait pas trop ce qui est arrivé à Anna. Ce que l'on sait, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été très très violemment torturée. Je crois que toute sa vie, et c'est pour ça en grande partie qu'elle est morte assez jeune, elle avait encore des douleurs qui étaient liées à cette torture, notamment dans la colonne vertébrale. Et donc, elle a été très violemment atteinte par ce moment de sa vie et la mort de son mari, qui était quand même pour elle terrible.
Une longue et mince baguette de bois flexible, cerclée d'anneaux de métal, comme par enchantement, surgit dans la main du bel officier blond. Il me semble tout d'un coup grotesque de rester assise là, à fumer une cigarette. Je la pose dans un cendrier et je me lève. « Déshabillez-vous, » me dit-il. J'enlève mon manteau, mon pull vert, complètement. J'ai continué par les chaussures et par le pantalon. Je n'ai plus que ma chemise sur moi. J'ai dit « complètement ». Je ne bouge pas. Alors, d'un geste brusque, il arrache la chemise qui tombe à mes pieds. « Ramasse-la, » dit-il. Je me baisse et la baguette me mord le dos. Je me redresse furieuse. « Voulez-vous que j'arrête ? » me demande-t-il poliment. Dans ma tête défilent toutes les humiliations, toutes les lâchetés auxquelles j'ai cédé jusqu'à maintenant. Je sais que je pourrais encore être lâche, encore m'humilier, si seulement il y avait une ombre d'espoir pour Jacques. Mais c'est fini. Et du coup, je suis libre. Libre de haïr et d'exprimer ma haine. Quelque chose qui ressemble à une joie obscure s'exalte en moi, stimule mon orgueil et mon imagination, m'enflamme. Je ne sais rien de ce plan. Je n'ai rien à faire avec les Russes ni avec les espions. Et je le regrette. Je le regrette de tout mon cœur. Je n'ai pas suffisamment pensé à vous. Je ne pensais qu'à moi, à ma petite vie personnelle. Et je m'en repens. Je m'en accuse devant vous. Si seulement j'étais une espionne. Si seulement j'avais travaillé à votre destruction. La badine siffle et me mord de nouveau. Heureusement, il y en a d'autres que moi. Beaucoup d'autres. Vous êtes fichu et vous le savez. Et moi aussi, je le sais. C'est si bon de le savoir. Le troisième coup me laisse le dos en feu. Je m'efforce de rester droite, mais cela fait mal. Atrocement mal. Et chaque fois que la baguette retombe, je crois atteindre le dernier degré de la douleur. Il me semble impossible d'aller plus loin. J'aurais dû déjà perdre connaissance. J'attends ce moment. Je l'implore, mais il ne vient pas. Alors je me décide à aider un peu la nature. Je me laisse tomber. J'aperçois encore, penché sur moi, narine dilatée, la lèvre retroussée sur ses dents blanches, le jeune visage lisse et rose éperdu de jouissance. Une vague de douleur et de dégoût me submerge. Je ferme les yeux. C'est une tige chauffée à blanc qui s'abat maintenant sur mon dos. Instinctivement, je m'applique à trouver des moyens d'atténuer la souffrance. J'essaie de me détendre, de relâcher mes muscles. Tentative dérisoire, la souffrance tient à la moindre fibre de mon corps. Un dernier coup plus violent encore éclate dans mes os et me laisse anéanti. Je suis incapable de me lever. Le bel officier m'aide gracieusement. Avec des gestes légers, adroits, il lave mon dos et désinfecte mes plaies. Sur le mur, il y a une petite pharmacie pleine à craquer, d'où il tire des flacons, de la gaze, de la ouate. « Je ne vous fais pas trop mal ?» me demande-t-il. C'est alors que je commence vraiment à avoir peur. Ces mots pleins de sollicitude de l'homme qui pense les blessures qu'il a faites. Dans quel cerveau pourrait-il se former sinon dans celui d'un fou ?
Le sel et le soufre.
Maria, quelle activité avait-elle à la maison, Anna Langfous, votre mère ? Racontez-nous.
Elle lisait et elle écrivait. Le plus souvent couchée parce que son dos était foutu. Donc des souffrances dont on ne se rendait pas compte, nous. Et donc, oui, je la revois manger. Souvent couchée aussi. Souvent couchée. Je mangeais avec mon père sur la table de la cuisine. Alors ça, je la revois manger. Elle avait une immense serviette de table comme ça, à carreaux. Elle coupait les livres. Coupe papier, elle connaissait pas. De toute façon, elle avait des ongles pointus, donc elle coupait les pages avec ses ongles. Et elle reniflait. C'est marrant que vous me demandiez ça. Elle fumait. Alors, elle fumait beaucoup.
Jean-Yves Potel, arrive le printemps 45 et la libération de la Pologne. Qu'est-ce qui se passe pour Anna Langfous ?
Anna Langfous était emprisonnée dans la prison de Płońsk. L'armée rouge avançant, les SS ont vidé la prison et ont emmené avec eux quelques prisonniers, plutôt des prisonnières. Ils sont partis avec eux vers Berlin. Et puis, au bout d'un moment, ils les ont abandonnés. Parce qu'ils avaient peur eux-mêmes, parce que ça devenait très dangereux pour eux. Donc, Anna s'est trouvée abandonnée, quelque part, et elle est repartie à pied, chez elle, à Lublin. On ne sait pas trop, mais elle a fait 400 ou 500 kilomètres à pied. Elle est arrivée, elle était dans un état physique et psychologique absolument incroyable, et elle s'est installée dans sa maison qui avait été occupée par d'autres, mais elle a trouvé un endroit où se mettre. Et elle a essayé de s'en sortir. Et ce qui est très intéressant, c'est que la première chose qu'elle a faite, c'est de s'inscrire dans un cours de théâtre. Ça n'a pas duré longtemps, mais elle l'a fait, ça lui a donné des forces. Et elle est restée à Lublin pendant un certain temps, elle était avec les rescapés. Et c'est là qu'elle a retrouvé Aaron Langfous. Aaron Langfous était aussi un ami de sa jeunesse qu'elle connaissait, mais qui avait vu sa femme tué pendant la guerre. Il était un peu plus vieux qu'elle, quelques années, hein, ou deux ou trois ans. Mais lui était marié, et tous ces gens qui étaient des rescapés avaient vu toute leur famille assassinée, et lui, il était un des seuls rescapés de sa famille. Et donc, Aaron et Anna se sont rapprochés à ce moment-là. Vous savez, dans cette période de l'après-guerre, les rescapés, ils étaient souvent pas compris par les gens qui étaient autour d'eux, parce qu'ils avaient vécu des choses qu'on ne pouvait pas raconter comme ça. Et elle, elle avait un bagage assez lourd à raconter. Et donc, ils se regroupaient plutôt entre eux. Ils ont passé, comme ça, quelques semaines, quelques mois, ensemble, à Lublin. Ils n'ont pas tout de suite une relation amoureuse, mais c'était une relation d'amitié. Lublin était le lieu où s'était installé le gouvernement provisoire polonais. Mais ce qui est important pour Anna, c'est que les Français de Gaulle avaient envoyé à Lublin un représentant, un diplomate qui s'appelait Monsieur Fouché. Et ce Monsieur Fouché était là pour établir des liens avec cette nouvelle équipe qui s'installait à Lublin. Et donc, ce Français a rencontré Anna. Ils se sont appréciés les uns les autres. Et Anna a pu obtenir de lui un visa pour aller en France. Elle ne voulait pas rester là. Elle le dit elle-même plusieurs fois, elle ne voulait plus rester en Pologne. Parce qu'elle était comme beaucoup de rescapés. Et il y avait une double douleur. Il y avait la douleur de ce qu'elle avait vécu sur ces lieux, avec tous ces massacres, sa famille, tous ces gens qui avaient été assassinés. Et deuxièmement, elle avait une deuxième douleur qu'elle vivait aussi presque au quotidien et qui était accentuée par la réapparition de pogroms, qui était l'antisémitisme qui était vécu par beaucoup de juifs à ce moment-là. Donc elle ne voulait plus entendre parler de la Pologne, d'ailleurs n'y est jamais retournée. Et elle est partie en France avec Aaron Langfous. Ils n'étaient pas mariés, ils n'étaient même pas amoureux, mais ils sont partis ensemble. D'ailleurs, quand ils se sont installés à Paris, ils ont été très longtemps à Pantin. Ils n'étaient pas dans le même appartement. Et c'est au bout de quelques mois, d'un an, un an et demi, qu'ils se sont mariés et qu'ils ont eu Maria, qui était leur enfant, qui est née en 48. Donc vous voyez, il y a eu un temps pour qu'ils se mettent ensemble.
Que se passe-t-il pour Anna Langfous quand elle arrive en France?
Dans ce que fait Anna Langfous, lorsqu'elle est en France, c'est qu'elle va devenir une écrivaine. Et elle va devenir une écrivaine parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas vivre sans écrire par rapport à ce qu'elle a vécu. Sa façon de faire presque son deuil de ce qu'elle a vécu, ça va être d'écrire. Elle va d'abord écrire du théâtre et ensuite elle va écrire Le sel et le soufre. Et donc elle est en fait la première écrivaine française, parce qu'elle écrit en français, qui va traiter sous la forme d'un roman, sous la forme d'une fiction, en écrivant trois romans, qui va traiter ce qui pour elle est fondamental, qui est la douleur des rescapés. C'est-à-dire qu'elle ne va pas du tout aller dans le discours ambiant qui existe souvent sur l'après-guerre, dans les milieux juifs en particulier, qui est de vanter l'héroïsme des juifs qui se sont battus contre les nazis. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas eu d'héroïsme, mais ce n'est pas ça son sujet. Son sujet, c'est les victimes qui survivent et comment ils vivent avec cette douleur qui est en eux. Et elle va construire une idée qui va dominer toute son œuvre, qu'est-ce qu'elle appelle la maladie de la guerre. Donc elle veut parler de la maladie de la guerre. Elle pense qu'il faut écouter les rescapés, mais les écouter pour la douleur qu'ils ont en eux, sur ce qu'ils vivent en eux. Et il est quand même très intéressant de voir que Anna Langfous va écrire là-dessus dans les années 50-60, alors même que c'est aujourd'hui, disons depuis une vingtaine d'années, que c'est le thème central sur la Shoah. Mais à l'époque, on ne voulait pas parler de ça. On n'en parlait absolument pas, très peu. On parlait essentiellement de l'héroïsme, de la résistance, du combat antifasciste, mais pas vraiment de ce qui était la douleur du rescapé.
Est-ce que vous êtes allé en Pologne, vous, sur les traces de votre mère?
Oula, surtout pas. Mes parents m'ont donné un tel dégoût du pays.
Maria Langfous.
En revanche, j'avais à Sarcelles des copines de la même origine que moi et tout, qui allait en Pologne, oui. Elle rapportait de la vodka. On se faisait des vodka parties.
On parlait polonais parfois à la maison ou pas, chez vous?
Quand j'étais toute petite, oui. Et maman disait toujours français, 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 français. Et ma mère aimait beaucoup dire merde. Oh merde, j'ai oublié de fermer le robinet. Elle avait une force de caractère vraiment au-dessus de tout.
J'ai commencé par écrire des pièces de théâtre. Je n'ai pas attaqué tout de suite le roman.
Anna Langfous.
Je me suis imaginée, à tort d'ailleurs, et bien naïvement, qu'une pièce de théâtre, pour moi, qui était une étrangère et qui connaissait très mal la langue, est une chose plus facile à faire. Parce que, bien sûr, le décor, c'est le décorateur qui le fait, la mise en scène, le metteur en scène. J'avais juste à faire les dialogues. Or, c'est une erreur très grossière. Je m'en suis rendu compte après. J'ai donc écrit la première pièce qui s'appelait « Les lépreux » qui était jouée. Et Jacques Lemarchand est venu voir la pièce, il en a fait une critique. Et peut-être un an après, mais au même plus, j'ai rencontré par hasard Jacques Lemarchand dans un théâtre. Il vient, il me dit « Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous préparez une autre pièce de théâtre ?» J'ai dit non, pas du tout. Et puis, bêtement, je dis, vous savez, j'ai changé, j'écris des romans. Il m'a dit, oh, mais c'est très intéressant, il faut me les rapporter. Or, je n'avais pas de romans. J'avais écrit un tout petit chapitre. Alors, j'ai fait marche arrière, j'ai dit, non, non, écoutez, non, j'ai dit des bêtises, je n'ai pas de romans, j'ai qu'un chapitre. Il m'a dit, mais ça ne fait rien, apportez-moi le chapitre. Or, je ne savais absolument pas qui était Jacques Le Marchand. Je savais que c'était un critique théâtral, mais je ne savais absolument pas qu'il était en même temps lecteur chez Gallimard. Je lui ai donc laissé le chapitre et j'ai reçu sa réponse et peut-être 10 jours après. Il m'a dit, écoutez, moi ça m'intéresse, soyez gentil de continuer et de me porter tout ce que vous faites au fur et à mesure. Et c'était pour moi vraiment une très grande chose à l'époque. D'abord parce que j'étais surveillée par quelqu'un, j'avais besoin de ça. J'étais encouragée, j'avais besoin de cela aussi, je n'étais absolument pas sûre de moi-même. Et c'est comme ça que j'avais fait le sel et le soufre.
Maxime Decou, vous êtes universitaire, essayiste, et vous avez beaucoup travaillé sur les relations entre judéité et littérature. Comment pourriez-vous présenter l'œuvre d'Anna Langfus ?
L'œuvre d'Anna Langfus, je dirais qu'elle est singulière dans le paysage littéraire français. Alors déjà, on a une œuvre qui ne comporte que 3 textes, 3 romans, qui inaugurent un nouveau temps dans l'écriture autour de la Shoah. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est la première fois où des rescapés, donc des gens qui ont connu, qui ont été témoins des événements, vont écrire des fictions. Donc on a un changement de régime, puisque au préalable, avant Anna Langfus ou Piotr Avix, les œuvres principalement écrites par les témoins sont des témoignages, donc de nature autobiographique. Or, Anna Langfus introduit ici une variation, puisqu'elle recourt à la fiction dès Le sel et le soufre. La deuxième chose importante est que c'est une œuvre que je qualifierais de littérature non concentrationnaire. C'est-à-dire qu'elle fait découvrir des aspects de la Shoah qui sont encore souvent mal connus du grand public. C'est-à-dire que la Shoah ne s'est pas simplement déroulée dans des camps ou dans des centres de mise à mort, mais elle s'est aussi déroulée dans des ghettos, avec d'autres types de persécutions, dont témoigne Anna Langfus, notamment dans Le sel et le soufre. Et puis la troisième chose, c'est qu'elle inaugure un temps qui va être le temps d'après. Une littérature, alors en particulier dans Les bagages de sable et dans Sceau de Barbara, une littérature qui va porter sur les rescapés et leur difficile réintégration dans le monde d'après la Shoah. Difficile réintégration, voire impossible réintégration, avec des personnages qui sont des personnages traumatisés, à la dérive, qui sont hantés par les fantômes des disparus. Et on a plusieurs scènes, aussi bien dans Les bagages de sable que dans Sceau de Barbara, où des fantômes apparaissent et où le personnage, qui est un survivant, discute avec les fantômes, ce qui est très révélateur du fait que ces gens ne peuvent pas vivre normalement dans le monde des vivants et qu'ils continuent en fait à appartenir à ce monde des morts, à celui qui a disparu avec le génocide.
Tandis que je parlais, Michel Caron ne pensait qu'à lui. Tu es jeune, tu as encore toute ta vie devant toi. T'es mort, c'est sans doute ce qu'il veut dire. Des drames, tout cela n'a aucune importance puisque tu es jeune, puisque tu es capable de faire l'amour de longues années encore. Alors brusquement je dis, je veux rester seule, allez-vous-en. Il se lève et d'une voix redevenue humble, il murmure « Bonne nuit, Maria ». Je me sens une envie de rire méchante, offensante. Allons, parler, s'expliquer, se confier et quoi encore. Chacun est prisonnier de sa petite histoire personnelle et chacun demande à l'autre d'en sortir, de s'oublier. Mais de part et d'autre, un implacable gardien veille. Pas de communication, le silence, le secret. C'est un sourd que j'ai voulu émouvoir avec le pauvre récit de mes malheurs. Moi, la petite victime de guerre, la guerre et ses morts. Qu'est-ce pour lui qui doit soutenir son propre combat et qui n'a pas trop de toute sa pitié pour s'attendrir sur ses propres plaies? Il faudrait sans doute établir une échelle de valeur pour la détresse humaine. On chiffrerait, on comparerait. C'est moi le plus malheureux, ou c'est toi, preuve en main. Ou bien toute souffrance serait-elle unique, inhérente à un seul être et incompréhensible pour les autres.
Les bagages de sable.
Maxime Decou, pour ces 3 ouvrages, la narration est identique ?
Alors non, la narration n'est pas identique parce que une autre chose frappante, c'est l'évolution qu'Anna Langfousse fait faire à son écriture à travers ses trois romans. C'est-à-dire que le premier, qui est la fictionnalisation de ce qu'elle a vécu pendant la guerre, est un texte qui a peut-être l'écriture la plus classique. Alors c'est narré par un personnage, donc qui est une femme, Maria, en fait le double d'Anna Langfousse, le double fictionnel. Le deuxième texte est lui aussi un texte narré en première personne par un personnage qui s'appelle aussi Maria, qui pourrait être le même que dans Le sel et le soufre, mais ça, on n'en sait rien. On n'a pas d'informations là-dessus. Donc il y a une ambiguïté. Et là, l'écriture n'est pas tout à fait identique. Elle est moins classique, avec une écriture que je comparerais volontiers à l'écriture de Marguerite Duras. Une écriture beaucoup plus incisive, avec des phrases nominales, avec des images très fortes qui surgissent par moments. Et puis le troisième texte est aussi une narration en première personne, cette fois par un homme, qui met un petit peu ce dernier roman à l'écart des deux précédents, puisqu'on avait deux narratrices féminines qui pouvaient être vues comme des porte-paroles de l'autrice, ce qui n'est pas le cas donc dans le troisième roman. Donc toujours une narration en troisième personne, mais avec une écriture là où le style plus moderne qui avait été mis en place dans Les bagages de sable s'accentue dans Saut de Barbara, avec beaucoup de passages où la cohérence se perd, avec des phrases plus brèves, plus incisives. On est en fait perdu dans les pensées du personnage, dans sa saisie du monde. On est avec lui dans ses pensées confuses, dans son monde hanté par les fantômes, avec beaucoup de scènes qui surgissent comme des flashs, avec des images assez violentes qui reviennent. Et là, une écriture, oui, on sent vraiment que progressivement, Anna Langfousse s'efforce d'avoir une écriture de moins en moins classique, je dirais, parce qu'aussi, on est à un moment où la littérature se rénove de fond en comble. Robe Grillet, Claude Simon. Le nouveau roman domine le champ littéraire et il est clair que Anna Langfousse est très sensible à toutes ces évolutions de l'écriture et elle se saisit en fait de ce qui correspond à son projet romanesque et ce qui peut servir son propos, la manière dont différentes formes d'écriture vont lui permettre d'explorer cette hantise des survivants.
Dans la rue, c'est avec soulagement que je retrouve l'anonymat et l'indifférence des passants. Je ralentis mon pas. Il n'y a plus aucune raison de fuir. Ce ne sont que des ombres que je croise. On peut les regarder, leur donner une apparence de vie selon le désir de l'instant, leur prêter des pensées selon notre caprice, leur accorder ce qui justement nous manque, ou les accabler du poids de nos propres souffrances. On peut les trouver pitoyables, généreux, lâches, nobles ou mesquins, ou tout simplement drôles, cela dépend de notre humeur, du genre de spectacle qu'on a décidé de s'offrir. Des ombres innombrables, il n'y a qu'à choisir ce qui nous convient à tel moment. Une inépuisable réserve de premiers rôles qui ne joueront qu'une fois avant de retourner au néant.
Les bagages de sable.
Nelly Wolf, vous êtes professeur émérite à l'Université de Lille. Votre domaine ou vos domaines de recherche, c'est la sociologie de la littérature et des écrivains juifs de langue française. Comment regardez-vous l'œuvre d'Anna Langfousse ?
Alors, il y a plusieurs aspects dans son écriture. C'est une écriture qui, évidemment, porte témoignage de la Shoah en Pologne et de la survie en France. Alors, elle écrit en se gardant du pathos. C'est une affirmation, une revendication qu'elle exprime à plusieurs reprises dans ses interviews ou dans ses textes théoriques, entre guillemets. Le pathos, la sensiblerie, l'appel à la pitié du lecteur lui font horreur et lui paraissent comme des trahisons, des morts, de l'histoire qu'elle a racontée. Et on voit qu'elle essaie de mettre au point ce qu'on a appelé dans notre ouvrage collectif une écriture du silence. Une écriture capable de dire, tout en disant qu'on ne peut rien dire finalement, que c'est une expérience qui est de l'ordre de l'intransmissible.
Une de vos collègues universitaires, Juliette Adams, a écrit que dans Le sel et le soufre, il y a 88 occurrences du mot silence sous plusieurs formes.
Comment regardez-vous ça? Comment comprenez-vous ça?
Ça désigne à la fois le silence dont étaient entourés les Juifs exterminés, l'indifférence, le silence de l'indifférence. Ça renvoie au silence des morts, précédé par leurs cris, la mise sous silence d'une population. Et ça renvoie aussi au silence du cri silencieux, ce qu'on appelle le cri sans voix. Et le paradoxe du cri silencieux, c'est ce paradoxe du cri qu'on n'entend pas, qui signale un meurtre, une horreur tellement incommensurable qu'elle ne peut pas être transmise. On crie, mais personne n'entend, et soi-même on ne s'entend pas. C'est aussi le cri du cauchemar. Et je pense qu'il y a tous ces silences dans les 88 silences d'Anna Langfuss. Et il y a son propre silence à elle, ce qui fait silence en elle, qu'elle ne peut pas dire, ne veut pas dire, ou qu'elle essaie de mettre en forme, en retirant des mots.
Anna Langfuss, le 19 novembre 1962, à sa réception du prix Goncourt.
Pour mon second roman, j'ai voulu rompre mes obsessions de la guerre, et j'ai bâti une petite anecdote, assez facile, assez banale. Mais je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas l'écrire telle qu'elle. Pour pouvoir aller jusqu'au bout, j'étais donc obligée de retourner encore vers la guerre. Et c'est probablement pour cela.
Les bagages de sable sont-ils autobiographiques?
Les bagages de sable ne sont pas du tout autobiographiques. C'est un roman, c'est une invention pure et simple. Bien sûr, c'est basé, si vous voulez, sur ce qu'on peut imaginer, sur ces êtres qui errent après la guerre et qui ne retrouvent pas leur place parmi les vivants.
Et pourquoi les bagages de sable?
Je ne sais pas, je trouvais ce titre chez André Breton et il m'a semblé beau. Le bagage de sable, peut-être parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont en même temps lourdes à porter et qui fuient en même temps, comme le sable qui fuit entre les doigts.
Jean-Yves Potel, comment Anna Langfuss a-t-elle été reçue par le milieu littéraire français?
De façon inégale et contradictoire. Il y a eu des gens qui l'ont tout de suite soutenue, qui ont considéré que c'était une œuvre importante parce que justement, elle faisait ce que personne n'avait fait sur cette histoire. Mais en même temps, elle a été attaquée très violemment, notamment, y compris dans les milieux juifs. Dans la presse juive, il y a eu des critiques extrêmement dures contre le sel et le souffle, par exemple, et surtout sur ceux de Barbara. Donc c'est inégal. Donc, mais on peut dire quand même qu'elle a été assez bien reçue. Et ensuite, quand elle a eu le prix Goncourt, il a été considéré comme justifié. En plus, c'était une des premières femmes à avoir le prix Goncourt. Ce qu'il faut voir, c'est que quelqu'un comme Anna Langfuss, elle avait quelques avantages et aussi quelques inconvénients. C'était le fait que c'était une femme, elle est écrivaine, et elle a été par exemple beaucoup soutenue par Clara Malraux, avec qui elle était assez amie. Clara Malraux a fait de longs textes sur elle dans l'Express et ailleurs, mais par exemple, quelqu'un comme Simone de Beauvoir n'a jamais rien écrit sur elle, à ma connaissance.
Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que c'était une femme.
Nelly Wolf.
Et c'est important dans son écriture et dans son parcours littéraire. Elle a aussi pâti de son sexe, qui lui a valu une place minorée, une place réduite dans le canon littéraire en France. Déjà, le fait qu'un auteur homme se projette dans une narratrice femme, c'est déjà une indication d'invention, de capacité à sortir de soi, qui n'est pas féminine, puisque la femme reste coincée dans ses frontières intérieures. Elle n'ose pas. Et Anna Langfuss marche là-dedans. Elle-même, elle dit, les femmes ont du retard, ça fait pas assez longtemps qu'elles sont émancipées, et donc elles n'arrivent pas à travailler dans les grands genres. Le rapport que les journalistes entretenaient avec elle, même les journalistes femmes, mettaient toujours en lumière sa féminité. Paradoxal d'ailleurs. Vous insistez sur sa virilité aussi, sa poigne, son courage, mais les portraits qu'on faisait d'elle étaient hyper sexualisés, les belles jambes, les lèvres rouges. Il y a des tas d'allusions de mise en scène de la position genrée dans les interviews, mais ça fait partie de la scénographie journalistique aussi, à cette époque.
Nous sommes devant le numéro 11 de la rue. Quelques dizaines de mètres plus loin, un rectangle de papier, retenu par deux pierres, vainement tente de s'envoler dans le vent de ce jour chaud et sec. Pourvu que ce ne soit pas là. Mais c'est là. C'est bien là. Il est couché devant la porte. Soulevé à intervalles réguliers, le papier découvre le corps nu jusqu'à la taille. Le ventre bleu est énorme, comme sur le point d'accoucher d'un enfant monstre, fruit de l'accouplement de cette femme avec le ghetto. La jupe relevée lui couvre les épaules et la tête. Pour entrer au numéro 17, il faut enjamber le cadavre. Une femme sort de la maison. Tranquillement, elle attend que le vent rabatte le papier, puis elle saute. Je m'approche. J'attends aussi que le corps soit recouvert et à mon tour je saute. Je me retourne vers Jacques. Il ne bouge pas. Il ne regarde pas non plus. Il se tient là, avec cette couleur étrange dans les yeux. « Saute !» lui criai-je. Il s'y prend mal. Le papier se soulève et il s'y embarrasse les jambes. Il cherche à se dégager, bute et bouscule le cadavre. Celui-ci, qui était couché un peu sur le côté, se met alors sur le dos, les cuisses s'écartent et le ventre pointe vers le ciel, impudique. Les poils du sexe sont recouverts d'une couche de poussière. Je prends la main de Jacques. « Viens !» dis-je. « Nous sommes en retard. »
Le sel et le soufre.
Jean-Yves Potel, vous dites que dans ses romans, elle crée des récits écrans presque comme des fables.
Oui, c'est assez intéressant dans la technique littéraire, parce qu'elle raconte, par exemple, la torture en nous racontant autre chose. Elle raconte la mort de sa mère en nous racontant autre chose. Mais on comprend très bien, en lisant le texte, qu'elle parle d'autre chose. Quand je parle de les récits écrans, c'est-à-dire qu'elle ne se lance pas dans un récit réaliste, notamment dans les choses qui sont les plus crues, les plus violentes, les plus proches de ce qu'elle a souffert, elle raconte autre chose à côté qui nous permet de comprendre ce qui n'est pas dit. Donc dans son texte, il y a du dit et du non-dit. Et c'est une de ses techniques d'écriture. Elle fait parler les silences. Et ça, c'est, je crois, très fort dans le texte de Anna Langfous. Et ça avance quand on lit son dernier roman, Saut de Barbara, c'est encore plus fort. C'est parce que là, elle utilise une langue qui est encore plus sèche que dans Le sel et le fouf.
Maxime Decoux, lequel de ces ouvrages vous a le plus interpellé, vous ?
Chaque texte a ses qualités propres, a sa manière propre d'envisager les choses. Le sel et le soufre est certainement le texte le plus connu, parce qu'il raconte en le fictionnalisant ce qu'a vécu Anna Langfous. Les bagages de sable, je dirais que c'est un texte qui lui aussi est relativement connu, notamment parce que Anna Langfous reçoit le prix Goncourt pour ce texte. Et puis Saut de Barbara, c'est celui qui est certainement le moins lu, mais un texte que j'apprécie particulièrement par la force de son style, justement, et par sa manière d'explorer l'obsession du survivant et son refus de quitter les disparus, de faire le deuil. En fait, ce sont des livres avec les bagages de sable sur l'impossible travail de deuil du survivant, parce que faire son deuil, ça signifie aussi accepter que les disparus soient définitivement disparus et ne reviennent pas. Et ce sont donc des personnages qui se laissent envahir par ce que Freud oppose au travail de deuil, c'est la mélancolie. Mélancolie, attitude dans laquelle celui qui a connu la perte la refuse et matérialise les disparus sous la forme de visions, d'hallucinations et donc de spectres, de fantômes. Et c'est ce qu'explore Anna Langfous avec force dans Les bagages de sable et Saut de Barbara.
Anna Langfous, le 30 janvier 1966, dans un entretien avec Pierre Lost pour France Culture.
Aujourd'hui, nous arrivons à Saut de Barbara. Voulez-vous nous planter le décor de ce livre et nous présenter Michael et Barbara ?
Comment est née l'idée d'écrire ce livre ? C'était en 1961, c'était après que Le sel et le soufre est sorti, et j'étais invitée à une soirée que les peintres de Paris ont fait pour mon livre. Et après, il y avait une espèce de discussion qui s'est engagée entre eux et moi, et on a parlé de la vengeance. Donc nous avons discuté, la soirée était finie, et j'étais pour m'en aller à la maison. Un homme s'est approché de moi, il m'a dit « Écoutez, madame, je vais vous raconter une histoire. » Il m'a dit « Voyez-vous, j'ai un frère qui a passé la guerre en Pologne, dont la femme et une toute petite fillette de 4 et 5 ans ont été assassinées par les nazis. Après, cet homme-là est entré donc dans la résistance, il a survécu la guerre et il est rentré à Berlin avec l'armée rouge. Il était là, il était à Berlin, et un jour, sur une petite place, il a vu une petite fille qui sautait à la corde. Et la ressemblance de cette fillette allemande avec sa propre fille qui a été assassinée par les Allemands l'a frappée. Le premier geste était de tirer le revolver et d'abattre la petite. Et il n'a pas pu. Il n'a pas pu et il s'est enfui. Ça, c'est donc le récit que l'homme m'a fait. Moi, je suis partie de là. Mon livre commence donc quand l'homme erre parmi les ruines de Berlin. il a dans le cœur, dans l'âme, n'est-ce pas, ce besoin de vengeance. Et il n'y arrive pas. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce l'éducation? Est-ce la faiblesse? Est-ce la lâcheté? Est-ce tout simplement un sentiment humain dont il ne veut pas s'avouer? Il est là, il ne se venge pas, tout en ayant une conscience profonde qu'il faut venger, pas seulement ses morts à lui, mais tous les morts de la guerre. Et à ce moment-là, il voit cette petite Allemande. Alors moi, à partir de là, j'ai développé l'histoire. En effet, il veut la battre. Il ne la bat pas, il la vole et il s'enfuit avec elle.
Le pesant passage d'un camion dans la rue arrache à l'ombre, soudain, des choses informes qui restent dangereusement suspendues dans le vide. La petite se jette sur moi en criant. Je plaque ma main contre sa bouche. Ne crie pas. Il ne faut pas crier. Il ne faut jamais crier quand on se cache. Mais peut-être qu'elle ne sait pas. Elle n'a pas encore appris. Barbara, elle savait. Barbara. Elle se remet à pleurer, mais cette fois comme n'importe quel autre enfant, en aspirant l'air avec bruit. Je serre sa petite main plus fort. Mina, dit-elle entre deux hoquets. Je m'appelle Mina. Je dis doucement, écoute-moi bien. Tu ne t'appelleras jamais plus Mina. Il n'y a plus de Mina. Ses sanglots reprennent. Tu as dit que tu me ramènerais à la maison? Nous irons à la maison, dis-je. Je couche l'enfant sur la veste et je m'allonge près d'elle. Une pierre me blesse la hanche. Je la jette dans l'ombre où elle roule parmi les gravats, sa chute accompagnée de multiples et minuscules éboulements dont les échos persistent de longues secondes encore. Je maintiens l'enfant. Ce n'est rien, dis-je. Ce n'est qu'une pierre. Alors tais-toi. Tais-toi donc. Les mots ne peuvent plus quitter ma gorge. Ma main est pleine de cheveux blonds. Une plainte s'enfle, devient un cri, et c'est moi, ce cri est à moi, et je me jette face contre terre pour l'étouffer. C'est elle, c'est ta mère qui m'a dit saute. Saute vite, saute par la fenêtre, ils sont déjà dans la maison. Je ne voulais pas, mais j'avais trop peur. Une heure après, je vous ai retrouvées toutes les deux. Alors je t'ai prise sur mes genoux et nous sommes restés là jusqu'au matin. Ta tête trop lourde t'entraînait comme une pierre et je serrai ton corps de toutes mes forces pour le retenir.
Saute Barbara.
Le propre de la littérature, c'est de ne pas avoir un message univoque, explicite, mais un message qui est polysémique, lieu d'interprétation multiple.
Maxime Decoux.
Et donc, si moi j'avais à donner une interprétation du roman, ce qui me semble ressortir le plus, eh bien, c'est que le survivant ne pourra jamais devenir une personne normale et oublier le traumatisme, faire son deuil. Et donc, plus qu'un message, je dirais, c'est une exploration de cette situation et de toutes ses complexités. On peut lire les deux derniers romans d'Anna Langfous à travers beaucoup de travaux de psychanalystes sur le deuil et l'impossibilité du deuil. Les travaux de Freud, bien sûr, mais aussi les travaux d'Abraham et Torok sur les cryptes où les gens qui ont connu des morts, une sorte de crypte où ils vont abriter en fait les fantômes des disparus. Donc c'est vraiment une œuvre qui travaille sur ce deuil impossible et qui l'explore d'une manière extrêmement riche.
Maxime Decoux, vous parlez d'images séminales, notamment la poupée et la corde pour les objets et du seau pour le geste. C'est aussi psychanalytique, ce roman, Saut de Barbara, d'Anna Langfous.
Oui, je pense qu'on peut vraiment le lire à travers une grille psychanalytique et Anna Langfous arrive à incarner dans des objets l'obsession de son personnage. C'est-à-dire que cette intériorité tourmentée, obsédée par les disparus, eh bien, Anna Langfous nous la donne à voir dans l'écriture à travers des objets. Donc notamment la poupée qui sert vraiment presque de métonymie ou de fétiche de Barbara et de la petite fille, et donc qui traduit un rapport pathologique à l'autre, un rapport vraiment malade. De même, la corde à sauter de Barbara, que Michael retrouve avec Mina, cette corde à sauter, elle évoque un lien. C'est une corde, hein, on peut la tenir d'un bout à l'autre, et donc l'idée de cette corde, c'est aussi comment ne pas rompre le lien avec Barbara. Et il y a plusieurs scènes où Michael devient presque fou. Il demande à Mina de sauter à la corde pour revoir justement la manière dont sa fille elle-même sautait à la corde. Et donc tous ces objets trahissent la manière dont l'intériorité de Michael est rongée par cette obsession, rongée par cette scène, par ce traumatisme. Et donc ça évoque vraiment quelque chose de l'ordre de la pathologie.
Le dimanche est le jour de Barbara. Après le déjeuner, Nous allons faire un tour de manège à la petite fête foraine qui s'est installée dans ces espaces incertains entre Paris et les premières maisons de la banlieue. Rien ne devrait me distinguer des autres parents qui attendent autour du manège et surveillent avec attendrissement leur progéniture. Mais moi, je triche. Mon regard n'attrape la petite qu'à l'instant où elle s'éloigne de moi, où je l'aperçois de dos, où elle devient Barbara avec son corsage bleu et ses cheveux blonds dans le vent. Dès qu'elle revient vers moi, je baisse les yeux, juste le temps nécessaire pour qu'elle passe. Ainsi, je vois sans fin s'éloigner Barbara sur un cheval rouge, et je peux imaginer dans ses yeux le même plaisir grave qui se reflète sur le visage des autres enfants.
Saute Barbara.
France Inter, il est 20h.
Interactualité, le 12 mai 1966.
Anna Langfosse, qui obtint le prix Goncourt en 1962, vient de mourir à l'hôpital de Gonesse d'une crise cardiaque. Jean Bouvier, vous l'aviez reçu plusieurs fois devant ce micro.
J'ai bien connu Anna Langfosse. Elle était venue, à propos de chacun de ses livres, à ce micro, nous dire avec sa voix très douce tout ce qu'elle avait souffert sous l'occupation de la Pologne et comment elle n'arrivait pas à oublier. Anna Langfosse aura continué toute sa vie d'exaspérer en l'analysant dans ses livres ce mal de la guerre et de la haine dont on ne guérit pas. Anna Langfosse en meurt aujourd'hui à 46 ans.
Et moi, j'avais 18 ans. Elle est morte le 12 mai et on l'a enterrée le 16 mai, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 18 ans. Parce que papa avait perdu la tête et moi aussi. Ma mère, c'était l'amour.
Je tire ma petite valise de dessous le lit. Voici mon short de vacances, voici mon sweater bleu pâle et voici ma robe de chambre crasseuse et pelée. Voici un galet lisse et froid, d'une teinte indéfinissable que j'ai ramené de la plage. Souvenir d'une enfance perdue que j'ai si vainement cherché à revivre l'été dernier. Une autre fuite pour n'avoir pas à payer mon évasion avec le vieil homme. Un jour peut-être n'aurai-je plus à me dérober. Un jour, je deviendrai peut-être semblable à un galet lisse et froid, oublié sur une plage, ayant enfin trouvé la forme parfaite pour échapper au temps.
Les bagages de sable.
Voilà, je pense que je suis quelqu'un qui voudrait de tout cœur être quelqu'un de bien et qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas et qui accepte mal ses propres échecs. J'ai pensé beaucoup à cela et je me suis demandé si ce désir de perfection personnelle ne vient pas d'un orgueil. Et encore une fois, j'étais très déçue par moi-même. Et je crois qu'il y a une chose qui est très difficile dans la vie, c'est de s'accepter soi-même avec ses défauts. Parce qu'on en a, tout le monde en a. J'en ai autant que les autres, parfois même plus, parfois moins. Ça change, c'est variable. L'homme n'est pas une chose stable. Et l'homme, bien sûr, on dit souvent, oui, on a des amis, que voulez-vous, les amis, on ne peut pas compter sur eux. Mais je me demande si on peut vraiment compter même sur soi-même. Alors maintenant, je travaille pour pouvoir m'accepter. C'est assez dur.
C'était Anna Langfosse, Vivre et écrire après la Shoah. Merci à Maria Langfosse, Nelly Wolf, Jean-Yves Potel et Maxime Decou. Lecture, Marina Moncade, Vincent Domenac. Documentation Radio France, Véronique Le Faller, Antoine Villoz. Archivina, Mylène Touchet. Prise de son, Élise Leu, Corentin Bailly, Martin Troadec, Patrick Muller, Stéphane Touvenin. Mixage, Pierrick Charles. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Dominique Prusac, réalisé par Laure-Hélène Planchet.